VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 17 juillet 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seloudia. Tout d'abord les titres. Arrivée en Centrafrique de plusieurs centaines de soldats de Wagner selon un groupe russe. Au moins 11 morts dans l'est de la RDC, la population accuse le M23. Au Soudan, frappes aériennes, hier à Khartoum et combats au Darfour. La guerre entre l'armée et les paramilitaires entame son quatrième mois. En Libye, des migrants laissés en plein désert sans eau, nourriture ou abri, secourus à la frontière avec la Tunisie. Au Zimbabwe, l'opposition lance sa campagne en vue des élections du 23 août après plusieurs meetings interdits. Ukraine, possible expiration de l'accord céréalier, combat intense dans l'Est. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Plusieurs centaines de combattants expérimentés de Wagner sont arrivés en République centrafricaine pour assurer la sécurité en prévision du référendum du 30 juillet, a indiqué hier un groupe lié à la formation paramilitaire russe. Les précisions de Firmin Koyaweda.
Selon la communauté des officiers pour la sécurité internationale COSI, les instructeurs russes continueront d'aider les militaires des forces armées centrafricaines et les forces de l'ordre de la RCA à assurer la sécurité en prévision du référendum constitutionnel prévu le 30 juillet. Sur Telegram, la COSI a publié une photo montrant au moins une trentaine de personnes masquées en treillis militaires se tenant en ligne sur ce qui semble être la piste d'un aéroport. Dans son communiqué d'hier, la COSI assure que les instructeurs forment depuis plus de 5 ans les forces de sécurité centrafricaines et en permet ainsi de renforcer le niveau de sécurité générale du pays. Selon les États-Unis, la COSI est une société écran pour le groupe Wagner en Centrafrique. Elle est dirigée par un Russe, Alexandre Ivanov, sous sanctions américaines depuis janvier. Début juillet, plusieurs sources étrangères avaient affirmé qu'un nombre indéterminé de mercenaires de Wagner quittait la Centrafrique, une information fermement démentie par le gouvernement.
Dans l'est de la RDC, au moins 11 personnes ont été retrouvées mortes. 11 hommes ont été retrouvés morts hier dans le territoire de Rutshuru, à une centaine de kilomètres au nord de Goma. C'est ce qu'ont annoncé des sources locales qui accusent les rebelles du M23 de les avoir tués. Un responsable de la société civile a lui parlé de 12 victimes. Une trêve fragile s'observe dans les combats entre le M23 et les forces régulières congolaises depuis le déploiement de soldats d'une force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est il y a quelques mois dans la région. Mais des affrontements sporadiques opposent les rebelles à des groupes armés se présentant comme patriotes. Des forces aériennes ont visé hier Khartoum et des combats font rage dans la région du Darfour. Une formation de résistance civile locale affirme qu'une de ces frappes a fait 5 morts et 17 blessés, sans préciser l'origine du tir. Le point avec, de nouveau, Firmin Koyaweda.
Dans la capitale, des avions de combat de l'armée ont ciblé des bases appartenant aux paramilitaires, des forces de soutien rapide FSR, qui ont répliqué avec des armes anti-aériennes, indiquent des témoins. Des habitants ont signalé que des drones de FSR ont visé le plus grand hôpital de Khartoum, au lendemain d'une attaque similaire contre le même établissement. Au Darfour, des témoins ont fait état dimanche de violents affrontements avec plusieurs types d'armes dans la ville de Kass. Les habitants de Kass ont affirmé que des paramilitaires ont pillé des maisons. Les FSR ont dimanche salué la décision d'une force de police du Darfour Est de rejoindre leur rang, alors que des chefs de tribus du Darfour Sud ont également prêté allégeance aux FSR. Le ministère soudanais de l'Intérieur a pour sa part affirmé dans un communiqué dimanche que la police demeure le plus fervent soutien des forces armées à Khartoum et a félicité les efforts de la police dans le reste du pays. Samedi, une source gouvernementale a annoncé qu'une délégation des forces armées était de retour à Jeddah, en Arabie Saoudite, pour reprendre les négociations avec les rebelles des forces de soutien rapide. Les FSR n'ont fait aucun commentaire sur l'éventuelle reprise des négociations.
En Libye, des gardes frontières ont secouru des dizaines de migrants subsahariens déposés, selon eux, par les autorités tunisiennes dans une zone désertique à la frontière entre les deux pays et laissés sans eau, nourriture ou abri, rapportent des journalistes de l'AFP. À la suite d'affrontements ayant coûté la vie en Tunisien le 3 juillet, des centaines de migrants africains ont été chassés de Sfax, deuxième ville de Tunisie et principal point de départ pour l'immigration clandestine vers l'Europe. Ils ont été conduits par la police tunisienne selon des ONG, et abandonnés à leur sort dans des zones inhospitalières près de la Libye à l'est et l'Algérie à l'ouest. Par ailleurs, la Tunisie et l'Union européenne ont conclu dimanche à Tunis un partenariat stratégique centré sur la lutte contre l'immigration irrégulière, mais aussi destiné à soutenir le pays face à de graves difficultés économiques. Accompagné par les chefs de gouvernement italiens et néerlandais, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est réjouie d'un accord qui permettra, selon elle, d'investir dans une prospérité partagée, évoquant 5 piliers dont la très importante question migratoire. L'opposition zimbabwéenne a lancé sa campagne hier dimanche en vue des élections du 23 août lors d'un meeting à Gweru, quelques 300 kilomètres à l'ouest de la capitale Harare, après une série d'annulations de rassemblements sous différents prétextes. Les détails avec Jacques Aristide.
La petite ville de Gweru a été envahie par des militants de la coalition des citoyens pour le changement arrivés de tout le pays. Ils ont accueilli leur leader, Nelson Chamisa, surnommé le jeune homme, par des chants et des danses. Nelson Chamisa, 45 ans, qui affrontera le président sortant Emmerson Mnangagwa dans un peu plus de 5 semaines, s'est montré confiant face à des milliers de partisans parés de jaune, la couleur de son parti réunie dans un stade. « Notre thème, c'est pour tous », a déclaré M. Chamisa, évoquant la colère de nombreux Zimbabwéens. Il a assuré qu'en dépit des efforts de la ZANU-PF, au pouvoir depuis l'indépendance, qui se sert selon lui de la police pour entraver sa campagne, il tiendrait bon et allait l'emporter. « Vous ne pouvez pas arrêter une idée dont le temps est venu », a-t-il déclaré. Il a promis d'éradiquer la corruption et d'instaurer un gouvernement qui offrira des opportunités à chacun. Plus de 90 réunions de la coalition des citoyens pour le changement ont été interdites ou illégalement perturbées depuis son lancement l'an dernier. Selon son porte-parole, le président sortant Emmerson Mnangagwa a lancé sa campagne fin juin.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a souligné hier dimanche la nécessité de renforcer les efforts pour soutenir l'Ukraine face à l'invasion russe, tout en affirmant que c'est la meilleure action à entreprendre pour aider l'économie mondiale, en plus d'accompagner les pays en développement. Eric Manirakidza.
Une priorité clé est de redoubler notre soutien à l'Ukraine, a-t-elle insisté lors d'une conférence de presse. Madame Yellen participe à Gandhinagar, dans l'ouest de l'Inde, à une réunion des grands argentiers des pays du G7 dimanche, avant d'assister à une réunion du G20 Finance dans cette même ville ce lundi et demain mardi. Elle a dit s'être rendue compte par elle-même lors de sa visite à Kiev en février de l'impact massif de l'aide étrangère pour l'Ukraine, tant civil que militaire. Mettre fin à cette guerre est avant tout un impératif moral, mais c'est aussi la meilleure chose que nous puissions faire pour l'économie mondiale, a-t-elle estimé. Ces déclarations interviennent alors que l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes transitant par la mer Noire expire ce lundi soir et Moscou refuse pour l'instant de le renouveler. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, deux importants greniers à blé de la planète, a provoqué depuis l'an dernier une onde de choc sur l'économie mondiale en faisant gonfler les prix alimentaires et énergétiques. Par ailleurs, l'Ukraine a admis hier dimanche livrer des batailles difficiles sur le front de l'Est face aux forces russes et a appelé ses alliés à fournir plus d'armes et d'artillerie à longue portée. Moscou assure pour sa part que la contre-offensive de l'armée ukrainienne lancée en juin n'avait pas remporté de succès.
L'atmosphère nord, l'hémisphère nord entame ce lundi une nouvelle semaine sous une chaleur accablante, avec en Europe des températures attendues au-dessus des 40 degrés en Italie ou encore des alertes canicule en Espagne, des feux dévastateurs continuant de sévir au Canada et en Californie. Dans cet État américain, les incendies ont déjà ravagé plus de 3000 hectares et entraîné l'évacuation de la population. De la Floride à la Californie, en passant par le Texas, une grande partie du sud du pays s'est retrouvée encore dimanche sous le coup d'une vague de chaleur qualifiée d'oppressante par les services météo qui prédisent plusieurs records de température. D'autres régions américaines risquent d'importantes intempéries. La Minute Éco, Alexandrine Ollognon.
Au Zimbabwe, la compagnie minière chinoise Sinomine a annoncé la mise en service d'une usine de lithium dotée d'une capacité de production annuelle de 300 000 tonnes. Il s'agit de la troisième installation du genre pilotée par des entreprises chinoises, selon l'agence Ecofin. Le Togo devrait se contenter de 16 milliards de francs CFA à la clôture de sa nouvelle émission simultanée de bons et d'obligations assimilables du Trésor. Le pays était à la recherche de 30 milliards de francs CFA sur le marché financier régional selon le site Togo First. Avec ses nouvelles ressources, le trésor public togolais, qui a déjà cumulé 414 milliards de francs CFA au premier semestre de cette année, totalise désormais au titre de fonds levés cette année 430 milliards de francs CFA. La Zambie devrait parvenir à un accord de restructuration de sa dette avec ses créanciers internationaux. Le conseil d'administration du FMI a approuvé jeudi un déboursement immédiat de 189 millions de dollars à la Zambie. À la suite de la première révision du programme, le pays a conclu un accord le mois dernier avec les créanciers bilatéraux.
Merci Alexandrine. À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
On commence par l'athlétisme avec la 8e étape de la Diamond League hier en Pologne.
Oui, et belle performance des Africains à un mois des mondiaux à Budapest, notamment les Sud-Africains Sibiné Akane qui s'impose sur les 100 mètres. Son compatriote Fanny Ekek s'offre les 400 mètres devant le Botswanais Bayapo Ndouri. Le 3000 mètres steeple a été remporté par le Marocain Soufiane El Bakali. Chez les dames, la Nigériane Toby Amusa sort vainqueur des 100 mètres. L'épreuve des 800 mètres a été remportée par la Kenyane Marie Moura et puis le 1500 et 3000 mètres par les Éthiopiennes Imut Meshecha et Frey.
En basketball, le Maroc remporte l'AfroCan en Angola.
Les Lions de l'Atlas s'offrent la deuxième édition de ce tournoi réservé aux joueurs locaux suite à leur difficile victoire obtenue en finale face aux éléphants de la Côte d'Ivoire, score 78-76. Une belle consécration pour le pays, 58 ans après son dernier sac continental. Il succède ainsi à la RDC qui finit quatrième, battue lors de la petite finale par le Rwanda 82-73. Le pays hôte, l'Angola, termine à la septième place devant le Nigeria. La Tunisie, victorieuse 67-59 du Kenya, prend la cinquième place.
Du football avec l'épilogue hier de la Coupe de la COSAF.
Oui, un tournoi qui regroupe les équipes nationales de l'Afrique australe. Et c'est la Zambie qui remporte cette édition après son succès en finale 1-0 devant le Lesotho. Tenant du titre, les Chipolopolo gardent ainsi leur trophée pour une deuxième année de suite. L'Afrique du Sud, le pays organisateur, vainqueur du Malawi en match de classement, se contentera de la troisième place.
Algérie, le président de la Fédération de football rend son tablier.
Djahid Zefizef a rendu sa démission dans une vidéo publiée sur le site officiel de la Fédération. Moins d'un an après son arrivée à la tête de la FAF, il a été poussé vers la sortie après son échec aux élections du comité exécutif de la CAF qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, battu par le Libyen Al-Shalmani. Cette déroute scelle le destin de celui qui avait succédé à Sharaf Edil Amara, lui aussi parti suite aux très nombreuses critiques.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, l'hivernage est déjà là et la banlieue dakaroise risque d'être plombée par plusieurs travaux lancés par l'État, des travaux inachevés qui favorisent les inondations selon les riverains. Face à cette situation inconfortable, les populations dévoilent leurs inquiétudes. De Dakar, notre correspondant Sédina Abagué.
Des zones inondables, des zones en travaux et des populations inquiètes à l'heure des premières pluies. Pour Ouse Diallo, Dakar est en chantier et cela risque d'avoir des conséquences néfastes sur les populations.
Quand l'hivernage arrive, nous qui habitons la banlieue, nous avons de sérieux problèmes pour sortir de nos maisons pour aller travailler. Et les dégâts vont jusqu'à causer des pertes en vie humaine et cela peut être évité, je pense. Donc, je pense que l'État doit prendre davantage de mesures contre ces inondations. Nous avons eu beaucoup de programmes défilés, mais jusqu'à présent, aucun ne produit des résultats concrets. Dès qu'il y a de fortes pluies, Dakar est sous les eaux et chaque année c'est comme ça.
Pour Aladji Ndiaye, le plus dur est passé. Ce jeune manager d'entreprise estime que les efforts consentis par l'État devraient permettre d'avoir moins de soucis cette année.
Je pense que cette année sera moins pénible que les autres années, du fait que lors des travaux du bus rapide transit, nous avons vu qu'il y a un énorme réseau de canalisation qui est mis en place. Il traverse Dakar de la banlieue jusqu'à centre-ville et nous espérons que cela va aider à diminuer les inondations. Par contre, il faut reconnaître qu'il y a des zones qui ne peuvent pas échapper aux inondations car ce sont des zones inondables de nature. C'est le cas de la zone de Kaptaz et de Wakiman.
Pour avoir des systèmes viables, il faut des mesures inclusives. Tel est l'avis de Khadilou, une restauratrice de 32 ans.
Je pense qu'il est urgent que des mesures soient mises en place pour atténuer les risques d'inondation. Et cela peut inclure la mise en place de systèmes de drainage adéquats, la réhabilitation des infrastructures existantes et la sensibilisation des populations sur les mesures à prendre pour se protéger de ces inondations. Il est nécessaire de prendre au sérieux les inquiétudes des populations face aux travaux inachevés et aux risques d'inondations en banlieue de Dakaroise. Une action rapide et coordonnée de la part de l'État est indispensable pour assurer la sécurité et le bien-être des habitants.
Pour beaucoup de Sénégalais, il est important que l'État prenne en compte les inquiétudes des populations face aux gros chantiers en cours, comme les routes et les ponts qui sont toujours en construction dans des zones stratégiques de la capitale. D'autres estiment que les efforts faits par l'État devraient permettre d'éviter les inondations et leur lot de drames des années précédentes. Sédina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Le Bénin aspire à remplacer les motos à essence par des motos électriques d'ici 2030. Comment réussir un tel pari si, malgré les promesses et engagements pris, le pays reste déficitaire en matière d'énergie électrique? Notre correspondante à Cotonou, Ginette Flair à Dandé.
Réussir à faire du Bénin un pays indépendant en matière d'énergie électrique, c'est la promesse électorale faite par le candidat Patrice Talon, devenu président du Bénin depuis 2016. Mais 7 ans après, le tableau reste préoccupant, même s'il y a une certaine amélioration.
Les coupures ont diminué sous le régime de Talon. Et cela ne dit pas qu'on doit augmenter le coût de l'électricité. Puisque aujourd'hui, si l'on gagne au moins minimum 1000 francs au quotidien et qu'il est dans une location, comment pourrait-il payer l'électricité si cela augmente?
Pourtant, le Bénin aspire à avoir de l'électricité à revendre. Face à la presse, il y a quelques mois, Patrice Talon s'est félicité de la marche engagée par le Bénin vers une autonomie énergétique.
Le Bénin est en train de devenir l'oasis en Afrique, où les problèmes d'éducation, de santé sont en train d'être réglés à une grande vitesse. Nous avons fini de régler les problèmes d'infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières, énergétiques. Investir au Bénin, aujourd'hui, venir ici au Bénin, vous avez de l'électricité de qualité et avec Possibilité d'une convention sur le prix. On peut vous vendre l'électricité moins cher qu'en Chine.
C'est dans cette logique que les motos électriques ont commencé à circuler, fruit d'un partenariat entre le Bénin et la société M-Auto devenue Spiro. Avec un slogan tout trouvé, la lutte contre la pollution, les Béninois ne se font pas prier pour adopter les motos électriques qui, selon certains, restent une solution face à la cherté de l'essence de contrebande.
La moto électrique, elle est économique, très économique. Avec l'augmentation du carburant, j'ai ma propre moto, ça m'aide beaucoup. En plus, je contribue à la protection de l'environnement parce que ça ne fait pas de bruit ni de gaz. C'est une moto très, très, très facile à conduire, surtout pour nous, les femmes, nos mamans. Ça peut les aider à aller partout, sans souci.
J'ai laissé tomber ma voiture pour une moto électrique. Parce que pour moi, rentrer dans l'innovation, je m'adapte vite au changement, c'est très important.
L'innovation et le changement ont un prix et pour le moment, il est très lourd à payer. Aristide Singbo veut avoir une flotte de motos électriques pour son entreprise de taxi-moto, mais entre le coût de l'électricité et les délestages récurrents, il hésite encore.
Vraiment, ça va jouer fortement sur notre entreprise parce que nous utilisons beaucoup d'énergie. Est-ce que directement nos clients pouvaient comprendre cela?
On est encore loin de l'autonomie énergétique promise. D'ailleurs, pour combler un tant soit peu le vide que le Millennium Challenge compte pour le compte du deuxième compact, au Bénin a procédé il y a quelques semaines à l'inauguration d'un centre national de contrôle et de distribution d'énergie électrique. Selon le ministre d'État Abdoulaye Bio Tchane, ce centre va favoriser l'accès à l'énergie dans tout le Bénin.
C'est un centre qui va nous permettre de maîtriser un peu mieux la distribution d'énergie dans notre pays et de réduire de manière substantielle les coupures ou les durées des coupures et donc les durées des délestages. Ceci vient appuyer tout ce qui a été fait en termes d'investissement sur les lignes, sur les postes, des choses relativement techniques dont on vous a parlé ce matin, mais qui ont donné davantage accès à l'électricité à nos compatriotes.
Avec la fin des subventions sur l'essence au Nigeria, ceux qui vivaient de la contrebande ont maintenant du mal à joindre les deux bouts, ce qui ouvre un boulevard pour les motos électriques. Mais le coût de l'énergie électrique fait que certains hésitent encore. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
Au Cameroun, les experts de 8 pays africains proposent des solutions pour une transhumance transfrontalière apaisée. C'était lors de la deuxième conférence des ministres sur la transhumance transfrontalière. Un phénomène touchant le Cameroun qui partage sa frontière avec plusieurs pays. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
L'Association culturelle et sociale pour le développement des Bororo, Boscuda, a été créée en 1992 au Cameroun. Elle œuvre pour le vivre ensemble des bergers nomades et les agriculteurs. Lors de la conférence de Yaoundé, le vice-président de cette association, Moussa Ousmane Damba, a présenté le concept famille alliée afin de trouver des solutions aux défis de la transhumance locale.
Ce dont j'ai parlé a un rapport avec la pratique de l'utilisation des déchets organiques et des urines de bœufs pour fertiliser le sol. À la fin de la saison sèche, les bœufs sont déplacés et les agriculteurs peuvent venir planter sur la terre où les bœufs sont passés et bénéficier des déchets organiques qui ont été déposés sur cette terre. Cet engrais est 10 fois meilleur et on a récolté une meilleure nourriture.
Dans la région du Nord, les corridors de transhumance se posent entre autres problèmes, celui du respect des droits de femmes. La coopération technique allemande essaie depuis 6 mois un projet. Mohamedou Bachirou, élite de la région du Nord.
Toutes les femmes connaissent que dès qu'elles accouchent, dans les 60 jours qui suivent, elles doivent faire l'acte de naissance de leur enfant. Et puis elles savent que désormais, il faut avoir sa carte d'identité dès que tu as 18 ans. Que les autres pays qui sont impliqués dans le processus de transhumance emboîtent le pas et qu'il y ait une sorte de cohérence sur le corridor de transhumance.
En 2011, le Tchad et le Cameroun ont signé un accord pour la conservation de la biodiversité dans deux principales aires, à savoir le parc national de Sénaoura au Tchad et le parc national de Boubadida au Cameroun. Salufu Muhammadou, expert de la conservation de la biodiversité, travaille pour le projet BSB Yamoussa.
La circulation du bétail dans les aires protégées, il est interdit par la loi. Il y a un conflit entre les conservateurs des aires protégées et les transhumants. Il y a un conflit entre les agriculteurs locaux et les transhumants. Donc nous faisons tout ce que nous pouvons faire en termes de construction de dialogue, de sensibilisation, pour que les uns et les autres connaissent leurs droits et que chacun tire bénéfice des ressources
naturelles. À Yaoundé, les experts ont fait plusieurs recommandations. Dr Taïga, ministre camerounais de l'élevage, des pêches et des industries animales.
La transhumance, c'est un mode de vie. À ce mode-là, on requiert parfois des conflits entre éleveurs et agriculteurs, des problèmes de banditisme. Voilà à peu près les problèmes qu'il faut ajuster entre les différents pays pour organiser et arriver à une transhumance dite apaisée.
Dans l'urgence, chaque pays concerné devrait limiter les feux de brousse, améliorer la gestion des parcours pastoraux et diminuer la pression humaine sur les rares ressources afin d'éviter un afflux important du bétail dans la zone d'Afrique centrale. Yaoundé, Emmanuel Jounoutap, VOA Afrique.
La Guinée équatoriale vient d'adopter l'émission de visas en ligne pour attirer plus de touristes et hommes d'affaires. Le visa en ligne est opérationnel depuis le 1er juillet, mais divise les Équato-Guinéens. De Malabo, Samuel Obiangbana.
En Guinée équatoriale, le visa en ligne est opérationnel depuis le 1er juillet 2023 pour attirer plus de visiteurs, suscite l'espoir pour Cousteau Santiago B, cinquantaine et directeur commercial d'un hôtel à Malabo.
Pour nous, en tant qu'acteurs dans le secteur du tourisme, on a reçu la nouvelle avec beaucoup d'espoir, puisque c'est un élément très important en parlant du tourisme, parce qu'on sait que toute activité touristique s'est basée dans le mouvement des personnes, c'est-à-dire entrer et sortir de nos pays. Donc nous, on a vraiment l'espoir que ça puisse aboutir dans le sens où nous, on veut vraiment pouvoir avoir d'activités dans les hôtels. Avec l'entrée en vigueur de visa online, ça doit être un nouveau départ, puisqu'on sait très bien qu'une des difficultés que nous, les hôteliers, on a eu, c'était l'accès difficile dans notre pays à cause des procédures dans nos ambassades à l'étranger. Donc, avec l'avenir de visa online, nous on espère que cette fois-ci ça sera plus facile pour les visiteurs et finalement pour nous les hôteliers.
La Guinée équatoriale est dirigée depuis 44 ans par le président Teodoro Obiang-Nguema, 81 ans. Auparavant, obtenir un visa pour visiter ce petit pays d'Afrique centrale, c'était compliqué et coûteux en raison de toutes les procédures, des questions de sécurité intérieure avec la rentise des coups d'État. Bref, c'est un parcours de combattant pour une autorisation d'entrée dans ce pays. Le vice-président en charge de la défense et de la sécurité, Teodoro Nguema Obiang, fils du président, a officiellement lancé l'émission du visa en ligne le 1er juillet en déclarant, je cite, « Comme promis, la Guinée équatoriale s'est officiellement ouverte au monde. Le visa en ligne est opérationnel et avec cet outil, nous invitons les touristes et hommes d'affaires à profiter de cette opportunité que nous lançons. » Fin de citation. Le visa en ligne coûte $75. Il est payé en ligne en utilisant une carte de crédit débit, Mastercard ou UnionPay sur la plateforme equatorialguinee-evisa.com. Le visa est délivré au bout de 72 heures. Réaction de Dom Ibrahima, 37 ans, de nationalité malienne, que nous avons rencontré devant son kiosque de vente de téléphone dans le bouillant marché de Pinto au cœur de Malabo.
Merci, c'est ça. Moi, je suis très content parce que j'ai les frères qui vont venir ici. Donc, moi, quand même, je suis très content des nouvelles.
Donc, vous confirmez que pour le visa pour la Guinée équatoriale, c'était vraiment très compliqué, très difficile. Là.
Très, très, très compliqué. Bon, comme je ne connais pas quelqu'un d'ambassade de Guinée, donc ça correspond à ce que je suis venu maintenant. Ça m'a coûté l'argent un peu cher quand même.
Combien?
Bon, ça, souvent, on me dit 350. Donc, voilà, c'est le démarcheur qui a pris mon argent. Donc, moi, je ne connais pas personne d'ambassade. Donc, j'ai besoin de visa. Donc, le prix qu'on me dit, donc je suis obligé de payer.
C'était l'ambassade dans quel pays?
C'était Cotonou, loi. C'était, oui, 2018.
Si certains se réjouissent de visa en ligne, d'autres sont pessimistes, comme quand Martine Loyato, la cinquantaine et défenseur des droits de l'homme.
Le
visa en ligne est un projet mort-né.
Les premiers visiteurs qui ont obtenu le visa en ligne ont commencé à fouler le sol équato-guinéen. Selon la télévision d'État, le pays est considéré comme l'un des plus fermés au monde et classé troisième parmi les derniers de la planète à recevoir moins de 1000 visiteurs par an après la Somalie et le Yémen. Selon une récente publication d'un Globetrotter sur son site On Step Catwalk. Samuel Obiambana Malabo pour VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Firmin Koyaweda, à la console Zuber Al-Tayib. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.